VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro. Sommaire de cette édition du mardi 20 décembre 2022. La France condamne le soutien du Rwanda au M23, mais Paris dit être aussi en quête d'une solution. Au Sénégal, un juge ordonne le renvoi en prison d'un chroniqueur critique du pouvoir. Au Mali, un travailleur de Médecins Sans Frontières a été enlevé à Gao dans le Nord. À l'heure du bilan du sommet États-Unis-Afrique, pour la RDC, le compte est plutôt bon.
Et nous, on s'est battus. On a commencé des échanges avec les États-Unis et on a été réintégrés dans la GOA. C'était quand même une victoire après une dizaine d'années.
Nous retrouverons Tina Salama, porte-parole du président congolais Félix Tshisekedi dans la partie magazine. Au Pakistan, 33 preneurs d'otages ont été tués lors de la libération d'un poste de police. À suivre également dans cette session d'information, la Minute Éco, le FMI va verser près d'un demi-million de dollars au Kenya et les sports, les champions du monde argentin sont bien rentrés chez eux. Bonsoir, bienvenue, on commence par le journal. La France a de nouveau condamné ce qu'elle qualifie de soutien du Rwanda aux rebelles du M23, tout en affirmant vouloir parler avec tout le monde pour trouver une solution. C'était à l'occasion d'une visite ministérielle à Kinshasa, en RDC. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Pour la première fois, Paris a fait officiellement état du soutien de Kigali au M23, qui occupe une partie de l'est de la République démocratique du Congo. Nous condamnons ce soutien, a déclaré une porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Des experts de l'ONU ont confirmé ce soutien, démenti par Kigali, mais dénoncé par Washington et Bruxelles. La France a toujours défendu et défendra toujours l'intégrité et la souveraineté de la RDC, a déclaré à Kinshasa Krizoula Zacharopoulou, secrétaire d'État française auprès de la ministre des Affaires étrangères. Elle a ajouté que le M23 doit cesser les combats, se désengager et rendre les territoires occupés. Elle dit soutenir la médiation de l'Angola et celle du Kenya et affirme que la France est prête à parler au Rwanda. La relation que nous avons reconstruite avec Kigali, nous la mettons au service de la paix, conclut Mme Zacharopoulou. Le M23 a repris les armes en fin novembre 2021. Ce groupe armé est accusé d'avoir massacré au moins 131 civils fin novembre.
Dans le nord-est de la République démocratique du Congo, 9 personnes, dont 8 enfants, ont été tuées au cours de l'attaque d'un village par des hommes armés dans la province de l'Ituri. Cette attaque a visé le village d'Azimini. Lundi, l'administrateur du territoire de Mahadji, le colonel Jacques Dissanoa Laloua, affirme que les forces de sécurité sont à pied d'œuvre. Il confirme le bilan et accuse le groupe Zaï d'être responsable de cette attaque. Au Sénégal, un juge a ordonné le renvoi en prison du chroniqueur Pape Alé Niang, moins d'une semaine après sa remise en liberté provisoire, a indiqué un de ses avocats. Le point avec Rosine Monizero.
Pape Alé Niang a été interpellé lundi soir et présenté mardi à un juge du tribunal de Dakar qui a révoqué sa décision de liberté provisoire assortie du contrôle judiciaire, a déclaré Moussa Sarr, un de ses avocats. Ce nouveau placement en détention fait suite à la demande du parquet qui estime que Pape Alé Niang a évoqué son dossier lundi sur les réseaux sociaux alors que son contrôle judiciaire lui interdit de le faire, a dit Maître Sarr. Patron du site d'information Dakar Matin, le chroniqueur a été relâché et placé sous contrôle judiciaire le 14 décembre. Il avait été inculpé et écroué pour divulgation d'informations de nature à nuire à la défense nationale, recel de documents administratifs et militaires et diffusion de fausses nouvelles. Le chroniqueur dit être l'objet d'un acharnement de la part du pouvoir sénégalais qui a décidé de le faire taire à tout prix. Sa détention a suscité une vague de critiques de la presse locale et de la société civile.
Dans le nord du Nigeria, la police islamique a arrêté 19 personnes accusées d'avoir organisé un mariage gay dans la ville de Kano, a indiqué aujourd'hui un porte-parole. Kano est l'un des 12 États du nord nigérian à appliquer la charia où les tribunaux islamiques fonctionnent parallèlement au système judiciaire étatique. L'homosexualité est passible de la peine de mort selon la loi islamique, mais aucune exécution n'a jamais eu lieu. Un travailleur de l'ONG Médecins Sans Frontières, MSF, a été enlevé à Gao, dans le nord du Mali, selon des sources policières et un élu local. Les détails avec Nani Talani.
Le travailleur de MSF a été enlevé lundi par des hommes armés dans un quartier de Gao, indique une source policière qui précise que la personne kidnappée est originaire d'un pays africain sans donner plus de détails. Le travailleur enlevé est un logisticien de MSF, a dit une autre source policière. Des efforts sont en cours pour la libération de l'agent de MSF enlevé, a dit de son côté un élu de Gao. La police a entendu des témoins et tout est mis en œuvre pour retrouver le travailleur humanitaire, d'après la police. Hans Joachim Lour, un prêtre catholique de nationalité allemande qui vit au Mali depuis une trentaine d'années, est porté disparu depuis le 20 novembre.
Un couple d'Américains a été mis en examen en Ouganda pour trafic aggravé d'enfants une semaine après avoir été poursuivi pour torture aggravée sur leur fils adoptif de 10 ans, selon une décision de la justice ougandaise qui a refusé leur demande de libération sous caution. L'homme et la femme sont âgés de 32 ans. L'identité du couple américain n'a pas été révélée par les autorités ougandaises. Le président sud-africain a réitéré mardi sa promesse d'éradiquer la corruption, alors qu'il est lui-même gêné par un scandale et juré au lendemain de son renouvellement à la tête de l'ANC d'unir le parti après avoir échappé à une procédure de destitution liée à une affaire de relan au relan de corruption. Il est désormais assuré d'un second mandat si le parti remporte les élections générales en 2024. L'ancien premier ministre tunisien et haut dirigeant d'Ennahda, Ali Larayed, a été arrêté dans l'affaire de l'envoi de djihadistes tunisiens vers les zones de guerre en Syrie et en Irak, a annoncé ce mardi le parti d'inspiration islamiste appelant à sa libération immédiate. M. Larayed, ex-ministre de l'Intérieur puis chef du gouvernement en 2011 et début 2014, a été entendu pendant plusieurs heures au pôle judiciaire antiterroriste avant d'être écroué selon un communiqué d'Ennahda.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Tragique fin dans une prise d'otages au Pakistan. 33 preneurs d'otages ont été tués ce mardi dans l'assaut donné par les forces spéciales pakistanaises pour libérer un poste de police dont s'étaient emparés depuis dimanche des membres présumés du groupe taliban pakistanais. Abdou Rahman nous en dit plus.
Selon les autorités, deux membres des forces spéciales pakistanaises ont également été tués et 10 à 15 blessés lors de l'opération. Tous les otages ont été libérés, précise le ministre pakistanais de la Défense, Khawaja Mohamed Asif. Dimanche, plus de 30 membres du groupe Tehrik-i-Taliban Pakistan, TTP, arrêtés pour suspicion de terrorisme, se sont emparés des armes des officiers qui les interrogeaient au poste de police de Banu, dans le nord-ouest du Pakistan. Le ministre a précisé que les forces spéciales sont intervenues lorsque des divergences ont éclaté au sein des talibans sur la manière de traiter leurs otages. Les preneurs d'otages avaient exigé un passage sûr vers l'Afghanistan en échange de la libération des otages. Le TTP, distinct des talibans afghans, a mis fin le 28 novembre à un cessez-le-feu fragile avec Islamabad et promis de mener des attaques dans tout le Pakistan. Entre sa création en 2007 et 2014, le TTP a commis de nombreux attentats au Pakistan.
Merci Abdourahman. Les forces américaines ont annoncé ce mardi avoir capturé 6 membres du groupe État islamique au cours de 3 opérations menées ces dernières 48 heures dans l'est de la Syrie. L'un d'eux est un dirigeant du groupe djihadiste identifié sous le nom d'Al-Zubaydi qui serait impliqué dans la planification d'attaques en Syrie. Le président russe Vladimir Poutine fixera les objectifs de son armée pour l'année 2023 lors d'une rencontre avec des responsables militaires demain mercredi, a annoncé aujourd'hui le Kremlin au 9e mois de l'offensive de Moscou en Ukraine. Vladimir Poutine tiendra une réunion élargie du ministère russe de la Défense. Les résultats des activités des forces armées russes en 2022 seront résumés. Les tâches pour l'année prochaine seront définies, a indiqué le Kremlin dans un communiqué. Et puis, la France et l'Irak ont inauguré aujourd'hui en Jordanie une conférence dite Bagdad 2 destinée à promouvoir la coopération entre puissances du Moyen-Orient en présence des ministres des Affaires étrangères des grandes rivales, l'Arabie Saoudite et l'Iran. Parmi les autres chefs d'État et de gouvernement présents à Amman figurent le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, l'émir qatari Sheikh Tamim Ben Hamad al-Thani et le roi Abdallah de Jordanie, ainsi que le premier ministre irakien Mohamed Shia al-Soudani et l'émir koweïtien Sheikh Nawaf al-Ahmad al-Sabah. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Nani Kalani.
Le Tchad va bientôt commencer la mise en œuvre du projet d'appui au secteur de l'énergie électrique qui permettra à la Société nationale d'électricité d'acquérir et de poser 45 000 compteurs à prépaiement, aménager et équiper des postes de moyenne et basse tension et renforcer certains tronçons du réseau de distribution. Cela permettra de réduire les pertes techniques, améliorer le taux d'accès ainsi que la qualité de service et l'hybridation de 3 centres de production d'électricité situés à Bangor, à Bol et à Biltine pour réduire les consommations de carburant et les coûts de production. Le FMI annonce avoir approuvé le versement de 447,39 millions de dollars au Kenya après un examen de son programme de prêt, annonce ce mardi le fonds. Les deux parties ont convenu de l'augmentation des fonds en novembre pour couvrir les besoins de financement extérieur résultant de la sécheresse et des conditions de financement mondiales difficiles. Terminant par Globeleq, l'un des plus grands producteurs indépendants d'électricité en Afrique, qui annonce le licenciement de 20% de sa main-d'œuvre au Cameroun, alors que parallèlement, l'entreprise soigne ses actifs en Égypte et investit au Kenya. Selon l'hebdomadaire Jeune Afrique, la construction de Menengai, le premier projet géothermique au Kenya, doit démarrer au premier trimestre 2023, selon un communiqué de l'entreprise détenue à 70% par British International Investment et par Norfund, le fonds de développement norvégien.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Les champions du monde argentins sont rentrés chez eux.
Oui, l'avion transportant les champions du monde qui ont conquis une troisième étoile dimanche au Qatar a atterri à l'aéroport international de Buenos Aires. Léo Messi, le capitaine et emblème du succès argentin, a été le premier à apparaître en haut de l'escalier d'embarquement brandissant le trophée doré du mondial pour gagner le tapis rouge déployé sur le tarmac de l'aéroport d'affaires des ESA. L'avion qui transportait joueurs et staff et leurs familles portait l'inscription « Une équipe, un pays, un rêve ». À leur arrivée, les champions du monde ont été acclamés par des milliers de supporters venus près de l'aéroport, puis s'en est suivi une communion avec les supporters dans les rues de Buenos Aires ce mardi, décrété férié.
La Fédération française de football va porter plainte après des messages racistes visant des joueurs.
À la suite de la finale de la Coupe du Monde, plusieurs joueurs de l'équipe de France ont fait l'objet de propos racistes et haineux inacceptables sur les réseaux sociaux. La Fédération française de football les condamne et va porter plainte contre ses auteurs. C'est ce qu'a écrit la Fédération sur le compte Twitter de l'équipe de France. Les Bleus se sont inclinés au tir au but dimanche au Qatar contre l'Argentine et plusieurs joueurs ont été visés sur les réseaux sociaux comme Kingsley Coman et Aurélien Tchouaméni qui ont manqué leur tir au but. Le Bayern Munich, club de Coman, a apporté son soutien à son attaquant.
Le Marocain Moustapha Hadji, suspendu par la CAF.
La commission de discipline de la Confédération africaine de football a interdit à l'ancien international marocain d'exercer toute activité liée au football pendant 5 ans. Elle a reconnu Moustapha Hadji coupable d'avoir falsifié sa licence CAF-A d'entraîneur en prétendant l'avoir obtenue en République centrafricaine. Le technicien marocain de 51 ans a 3 jours pour faire appel. De 2014 jusqu'à mars dernier, Moustapha Hadji était le sélectionneur adjoint des Lions de l'Atlas. Il a quitté ce poste après le limogeage de Vahid Halilhodžić. Il a été aussi l'adjoint de Badou Zaki et d'Hervé Renard.
World Athletics révèle le processus de qualification pour les Jeux Olympiques Paris 2024.
Ce processus a commencé depuis le 1er novembre pour le marathon. Fort de 48 épreuves, l'athlétisme attribuera ses places, 905 femmes et 905 hommes pour les JO, à moitié avec un système de minima, puis pour la moitié restante sur la base du classement mondial. Ce système est privilégié d'année en année par World Athletics. La période de qualification pour la plupart des épreuves individuelles débutera le 1er juillet 2023. Celle du 10 000 mètres, de la marche et des relais débutera le 31 décembre 2022. La période de qualification pour le marathon a débuté depuis le 20 novembre. Chaque pays pourra inscrire au maximum 3 athlètes par sexe et par épreuve. Les fédérations choisissent les sélectionner lorsque plus de 3 athlètes sont éligibles.
Page des sports VOA Afrique signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Bion de retour avec vous pour les dossiers du jour. De nombreuses questions ont été abordées au sommet des dirigeants États-Unis-Afrique ici à Washington. La semaine dernière, des accords ont été signés entre les États-Unis et plusieurs pays africains. Le président congolais Félix Tshisekedi était de la partie. Nathalie Barge a tendu le micro à sa porte-parole Tina Salama, qui revient sur certains sujets abordés lors de la rencontre.
Le président Félix Tshisekedi sait très bien quel genre de partenariat il veut avoir avec différents pays, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Union européenne et tous les autres. Il y a quelques années, on avait sorti la RDC de l'AGOA parce que elle ne remplissait pas les critères ou pour x y raison. Et nous, on s'est battu. On a commencé des échanges avec les États-Unis et on a été réintégrés dans l'AGOA. C'était quand même une victoire après une dizaine d'années. Et donc maintenant, on peut commercer avec les États-Unis. Donc en termes d'investissement, échange et tout ça, nous, on est confiants. Je pense que ça va profiter à nos deux pays. Mais aussi, ce qu'il faut dire, c'est qu'à peine arrivé ici, le premier accord que nous avons signé, que la RDC a signé, c'était avec les États-Unis, donc le secrétaire d'État Anthony Blinken, sur les batteries électriques. Vous savez que la Zambie et la RDC possèdent 70% du cobalt mondial. Et donc, les deux pays avaient déjà signé des accords. On va construire des zones spéciales pour les batteries et tout ça, parce que c'est l'avenir de demain, les voitures électriques et tout ça. Et donc, les États-Unis se sont dit intéressés.
Est-ce que l'accent a été mis également sur l'agriculture ?
Effectivement, il y a vraiment un problème d'insécurité alimentaire et j'ai bien aimé parce qu'il y avait tout un panel dédié à ça, pas que pour la RDC, en tout cas avec beaucoup de pays. Et le nôtre a pris part à ce panel-là sur Food and Security. Et donc, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y a beaucoup de terres arables en RDC et qu'il nous manque, c'est vrai, certaines choses. Donc, on va voir comment on va se mettre d'accord avec les États-Unis.
Au niveau sécuritaire, alors ça c'est la question qui fâche dans la région. Est-ce qu'on peut avoir les idées un petit peu plus claires par rapport à ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo et surtout comment ça a été perçu justement de la part des États-Unis lorsque vous avez fait des rencontres du point de vue sécuritaire, j'imagine, lors de ce sommet ?
Le président est venu en tout cas remercier les États-Unis d'être le premier à avoir condamné le Rwanda ou avoir cité nommément le Rwanda dans ce qui se passe à l'est du pays. Et donc Anthony Blinken l'a encore dit dès la fin du sommet, quand il a fait son point de presse, il a commencé par la RDC pour dire qu'il faut bien que la paix revienne en RDC. Et il a demandé au Rwanda d'user de son influence. Vous savez, c'est un diplomate. Il a demandé en tout cas au Rwanda d'arrêter son soutien au M23. Et donc nous, on pense que aujourd'hui, c'est clair qu'il y a ce soutien-là. La question ne se pose plus. Les Nations Unies ont tout un rapport qui le dit clairement. Et nous, on veut vraiment que ça puisse cesser parce qu'il y a eu un gros massacre récemment à Kiishi. Il y a eu viol de beaucoup de femmes. Il y a vraiment un rapport accablant qui a été également fait par la mission onusienne en République démocratique du Congo. Notre ministre de la Justice est parti à la CPI et a rencontré le procureur de la CPI pour demander à ce qu'il y ait un œil sur ce qui se passe ou sur les crimes qui sont commis dans cette partie de la RDC. Nous, ce que nous demandons à ces mouvements terroristes-là, c'est de déposer les armes, de se retirer des zones occupées, de permettre les convois humanitaires et on va voir comment on va discuter.
C'était Tina Salama, porte-parole du président congolais Félix Tshisekedi.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Au Sénégal, tourisme et collecte du sel au lac Rose sont menacés par une montée spectaculaire des eaux pendant la saison des pluies. Des milliers de tonnes de sel qui ont été amassées ont donc été noyées par les eaux. Le point avec Ginny Niwa.
La hausse brutale du niveau de l'eau et les pluies diluviennes, probablement liées au changement climatique, risquent de faire disparaître la couleur si prisée du lac, due notamment à la concentration de sel. Les travailleurs effectuent les dernières récoltes avant l'épuisement en mettant dans des sacs le gros sel qui est utilisé pour la cuisine et exporté dans toute la région. La hauteur a presque doublé, il est impossible à présent d'extraire le sel traditionnellement, c'est-à-dire de remplir un seau en se tenant debout sur le lac. Et la plupart des hommes ne savent pas nager.
Parce que depuis deux mois, personne ne peut rentrer dans le lac pour travailler, parce qu'il y a des risques de noyade. Le sel est au fond du lac, personne ne peut plonger pour exploiter le sel. Ça, c'est un problème. Et deuxièmement, si ce phénomène perdure, on risque de perdre complètement le sel parce que par dissolution.
C'est un problème. Parce qu'il y a tellement d'eau douce dans le lac que ça continue comme ça. Donc il y a un sérieux problème. L'exploitation du sol va disparaître une bonne fois pour toutes.
Les cours d'eau naturels historiques qui se déversaient dans le lac Rose ont repris leurs droits avec les inondations de l'été dernier.
Ce que nous avons constaté, c'est qu'avec le retour des pluies, il y a eu des ruissellements importants que nous avons constatés dans ces zones-là, avec la reconstitution de marigots, de cours d'eau. Et tous ces marigots et ces cours d'eau-là se sont, de façon naturelle, traînés, si vous voulez, et en suivant la topographie, vers le lac Rose. Est-ce que maintenant, est-ce qu'il peut y avoir possibilité de pollution, ou etc. Ça, c'est des études peut-être qui pourront en fait confirmer tout ça.
Ibrahim Ambaye, gérant d'un hôtel au bord du lac Rose et président de l'association ARR, Lac Rose, garde toujours un œil vigilant sur le couloir d'évacuation d'eau se déversant dans le lac, en observant si oui ou non des poissons se trouvent dans les eaux. La disparition de sel est une mauvaise nouvelle pour le tourisme. L'attraction autour de cette nouvelle curiosité naturelle, où les eaux exceptionnelles virent journellement du mauve au rose écarlate, représente une forte source de revenus qui menace de disparaître. Les entreprises autour du lac, vendeurs, artisans et exploitants de bateaux qui emmènent les touristes visiter le lac, comptent leurs pertes et s'inquiètent pour leur avenir.
La destination du Sénégal va avoir des problèmes parce que le lac Rose, la chloration rose et l'exploitation du sel pouvaient amener beaucoup de monde à venir découvrir. Donc là, c'est une perte pour nous les artisans, c'est une perte pour les gens qui gravitent autour du lac, mais aussi c'est une perte pour le Sénégal économiquement.
Le lac Rose est l'un des sites les plus visités du Sénégal et est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, le Congrès recommande des poursuites pénales contre un ancien président américain. La commission chargée d'enquêter sur l'attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole exhorte le ministère de la Justice à engager des poursuites pénales contre Donald Trump sur la base de 4 chefs d'accusation, y compris aide à l'insurrection. Catherine Gibson, correspondante de VOA au Congrès, fait le point, le récit avec Lionel Gaïma.
L'enquête sur l'attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole s'est achevée lundi après 10 audiences publiques et plus de 1000 témoins. Le représentant démocrate Benny Thompson.
Si nous voulons survivre en tant que nation de droit et de démocratie, cela ne doit plus jamais se reproduire.
Le panel de 7 législateurs démocrates et de 2 républicains a fait une recommandation historique sur le rôle de l'ancien président Donald Trump dans l'assaut du Congrès. La représentante républicaine Liz Cheney.
Le 6 janvier 2021, pour la première fois, un président américain a refusé son devoir constitutionnel de transférer pacifiquement le pouvoir à son successeur.
Le comité, qui ne peut pas procéder à une mise en accusation criminelle, mais a fait des recommandations au ministère américain de la Justice concernant 4 chefs d'accusation contre Donald Trump. Le représentant démocrate, Jimmy Raskin.
Le comité estime qu'il existe des preuves plus que suffisantes pour un renvoi au pénal de l'ancien président Trump pour avoir aidé et appuyé ceux qui, au Capitole, se sont livrés à une attaque violente contre les États-Unis.
Les législateurs estiment également que Trump devait être inculpé d'obstruction à leur enquête, de complot pour fraude contre les États-Unis et de complot pour faire une fausse déclaration, le dernier point étant lié aux efforts de Trump pour nommer des faux électeurs dans le cadre d'un plan visant à inverser les résultats des élections de 2020. Jamie Ruskin, représentant démocrate.
Nous comprenons la gravité de chacune de nos recommandations, tout comme nous comprenons l'ampleur du crime contre la démocratie que nous décrivons dans notre rapport. Nous sommes allés là où les faits et la loi inéluctablement nous mènent et ils aboutissent ici.
Le comité a aussi recommandé des poursuites pénales pour John Eastman, l'avocat de Trump, et des enquêtes d'éthique sur le potentiel futur président de la Chambre, Kevin McCarthy, et 3 autres républicains membres du Congrès. Donald Trump a critiqué le travail du comité, le qualifiant d'injuste et de déséquilibré. Sarah Matthews, ancienne secrétaire de presse adjointe de la Maison-Blanche.
Si le président avait voulu faire une déclaration et s'adresser au peuple américain, il aurait pu être filmé presque instantanément.
Le rapport final de l'enquête de la commission sur l'attaque du Capitole sera rendu public ce mercredi.
This is the voice of America. Washington, ba 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 zit. D.C.
Lorsque le président Joe Biden est entré en fonction au début de l'année 2021, il espérait rétablir la confiance en la démocratie après les allégations d'un vote volé en 2020, puis l'insurrection du Capitole le 6 janvier. Près de 2 ans plus tard, la correspondante de la VOA au département d'État, Cindy Sane, se penche sur le bilan aux États-Unis et à l'étranger. Davantage avec Michel Joseph.
Le président Joe Biden et son parti démocrate ont conservé leur majorité au Sénat, mais ont perdu la Chambre des représentants lors des élections de mi-mandat, un résultat meilleur que prévu. Une autre victoire pour le président est que les électeurs ont rejeté de nombreux candidats qui ont fait campagne en avançant le récit mensonger selon lequel l'élection présidentielle de 2020 a été truquée. Écoutons Joe Biden, président des États-Unis.
Notre démocratie a été mise à l'épreuve ces dernières années, mais par son vote, le peuple américain s'est exprimé et a prouvé une fois de plus que la démocratie est ce que nous sommes.
Depuis l'assaut du 6 janvier 2021 au Capitole, plus de 900 personnes ont été inculpées pour cet acte. Et l'ancien président Donald Trump fait face à des déboires juridiques dans de multiples affaires. Les deux partis ont largement accepté les résultats des élections de mi-mandat de 2022, ce qui a conduit certains analystes, comme le chroniqueur du New York Times, Thomas Friedman, à conclure que les institutions démocratiques américaines tiennent bon.
Il s'est passé quelque chose de tout à fait remarquable, où des républicains, des démocrates et des indépendants de principe se sont réunis, ont identifié les plus grandes menaces à notre capacité fondamentale de transférer légitimement le pouvoir, qu'ils soient candidats au poste de responsable électoral dans les États, de trésorier, de membres du Congrès ou de sénateurs, et ils ont voté contre chacune de ces menaces, les battant pratiques comme en toutes.
À l'étranger, M. Biden et le secrétaire d'État Anthony Blinken affirment que la répression des manifestations de rue en Chine et en Iran, ainsi que l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mettent en évidence la lutte mondiale entre la démocratie et l'autoritarisme. De nouveau, le président Joe Biden.
Le leadership américain doit faire face à ce nouveau moment de progression de l'autoritarisme, y compris les ambitions croissantes de la Chine de rivaliser avec les États-Unis et la détermination de la Chine à endommager et à perturber notre démocratie.
Mais un analyste a déclaré à la VOA que la politique américaine ne correspond pas toujours au cadre pro-démocratique du président lorsqu'il s'agit de contrer les régimes autoritaires dans des endroits comme l'Amérique latine et l'Asie du Sud-Est. Dalibor Rohak, du groupe de recherche American Enterprise Institute, nous en dit plus.
Ce n'est donc pas que le cadre est mauvais, mais plutôt que nous n'avons pas accompagné cette stratégie de politique efficace, comme des efforts de libération du commerce qui apporteraient des avantages tangibles aux populations en Inde et en Indonésie, par exemple, qui travaillent plus étroitement avec les États-Unis.
D'autres critiques disent que le président Biden devrait s'exprimer avec plus de force sur des questions telles que les protestations en Chine contre les politiques répressives de lutte contre le Covid ou les rassemblements anti-hijab en Iran déclenchés par la mort en garde vue de Mahsa Amini, une jeune femme de 22 ans. L'ancien vice-président Mike Pence a exhorté la Maison-Blanche à s'exprimer davantage, rappelant que l'ancien président Barack Obama a admis avoir commis une erreur en ne s'exprimant pas lors de manifestations similaires en Iran en 2009.
J'ai bon espoir que le président Biden prendra ce conseil, si ce n'est de moi, alors du président avec lequel il a servi, et qu'il laisse l'Amérique s'exprimer et parler au nom des gens en Chine.
Les experts ne s'accordent pas sur la meilleure façon pour le président Biden de persuader d'autres pays de renforcer la démocratie. Certains suggèrent que la guerre de la Russie en Ukraine a été si déstabilisante que l'administration Biden ferait mieux de présenter la lutte mondiale contre les autocrates comme un choix entre stabilité et instabilité.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, Joselle Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.